Auditrices et auditeurs, bienvenue sur cette émission sur les livres et leurs auteurs. Une émission sur les livres, avec leurs auteurs, des livres qui réunissent le plaisir de la lecture à la réflexion théologique. Daniel et Marguera, bonjour.
Bonjour.
Daniel Marguera, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir, certes par le téléphone, mais c'est beaucoup mieux que rien. Vous êtes aujourd'hui professeur honoraire de Nouveau Testament à l'Université de Lausanne. Alors moi, je vous connais depuis quelques années quand même pour tous vos travaux sur la narratologie biblique, cette analyse littéraire de la Bible, des évangiles, cette façon d'aborder les textes bibliques comme des récits, des histoires, des narrations. Alors aujourd'hui, Daniel Marguera, vous publiez un livre sur la prière. Et la prière sauvera le monde aux éditions Cabedita. Et dans ce livre, Daniel Marguera, vous pointez dans la Bible, les évangiles, les lettres de Paul et même l'Ancien Testament, des textes qui vous permettent, me semble-t-il, d'élargir cette notion de prière à des univers insoupçonnés. Daniel Marguera, c'est un aspect de vous que je découvre. Je connaissais l'expert de la narratologie et je découvre un auteur qui s'intéresse à la piété, à l'acte de prier, aux modalités de la prière. Surprise. Alors comment est-ce qu'on passe de ces travaux d'intellectuel à cette dimension que je qualifierais de plus pastorale ?
Écoutez, moi j'étais pasteur avant d'enseigner le Nouveau Testament à l'Université de Lausanne. Et la dimension pastorale, au fond, ne m'a jamais quitté. Je veux dire par là que dans mon activité, j'ai toujours été à la fois orienté sur des travaux scientifiques qui se soldent par de gros livres épais et destinés aux professionnels, mais en même temps, j'ai toujours estimé que les théologiens, pour ne pas parler des universitaires en général, ont une responsabilité de construction de savoir et de communication de savoir à l'égard de la société globale. En l'occurrence pour les théologiens, notamment à l'égard de l'Église. Donc j'ai toujours voulu diffuser le résultat de mes recherches, aussi complexes et sophistiquées soient-elles, mais de diffuser simplement le résultat de mes recherches à l'intention des non-professionnels, à l'intention du peuple de l'Église et du grand public. Alors c'est vrai que, vous avez raison, sur le thème de la prière, là je m'avance un peu plus. Vous savez, je vais vous dire deux choses pour l'écriture de ce livre. D'abord, c'est que, effectivement, je n'ai jamais autant avancé mon jeu de croyant, dans ce livre. Et c'est véritablement le carrefour de l'exégèse, donc du travail à distance sur le texte, et puis de l'investissement de mon jeu de priant. La seconde chose, c'est que, alors ça c'était une surprise pour moi, vous savez, quand on entre dans l'écriture d'un livre, on ne sait jamais ce qui arrive. Ça peut se passer très facilement, ça peut se passer au contraire de manière très très douloureuse, il y a de nombreux arrêts, il y a voilà, des hoquets dans l'écriture, et là, ce livre, je l'ai écrit en un mois sans... Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il a coulé comme d'une source. Il était donc mûr en moi. Et c'est peut-être justement ce carrefour de la vie de priant et du savant exégète où j'ai longtemps mûri ce livre et qui est venu ainsi et qui vient effectivement de paraître.
Alors 90 pages qui ont coulé comme une source et qu'on lit et qu'on boit comme une bonne eau de source, avec un titre « Et la prière sauvera le monde » pour le moins provocateur. Et cette provocation, à mon sens, ne s'arrête pas au titre. Vous continuez page 7 en disant « Dieu et nul autre a sauvé le monde, mais encore faut-il que le monde le veuille bien ». Alors comment est-ce qu'il faut comprendre cette dernière partie de phrase « Faut-il que le monde le veuille bien ?» On ne veut pas être sauvé ?
Alors écoutez, effectivement, on m'a beaucoup accroché sur ce titre et on continuera à le faire. Je l'ai voulu provocateur. Pourquoi ? D'abord, j'ai parodié une déclaration du prince Michkin dans le roman de Dostoïevski, L'Idiot. Le prince Michkin dit à un moment donné « La beauté sauvera le monde ». Moi, je suis convaincu en tant que théologien que ça n'est pas la beauté qui sauvera le monde, ce ne sont pas nos bonnes intentions, sont-elles d'ailleurs toujours bonnes, ce ne sont pas les décisions politiques qui sont sont jamais dénuées d'intérêt, ce ne sont pas les manifestations qui sont rarement dénuées de violence, non, c'est la prière. Alors pourquoi ? Parce que la prière est une posture devant Dieu, c'est une position devant Dieu. J'essaie de dire, pour commencer dans ce livre, que le priant ne fait rien, il est. Il est devant Dieu, il s'expose à Dieu. Et que le miracle de la prière, c'est que mon discours ou mon silence ne sont pas prières parce que j'aurais trouvé les bons mots, ne sont pas prières non plus parce que ma piété serait intense, non. Mes mots ou mon silence sont prières parce que Dieu les écoute. Parce que Dieu les écoute et que du coup ils deviennent prières. Mais, et c'est là que je réponds très précisément à votre question, encore faut-il que j'accepte d'être en prière, c'est-à-dire que j'accepte d'être transformé par ma prière. Parce que je suis convaincu que quand on parle prière, bien entendu, le thème, ou le désir plutôt, le désir qui vient aussitôt à l'esprit, c'est le désir de l'exaucement. Et qu'effectivement, l'exaucement est un phénomène qui est un phénomène mystérieux. Ça n'est pas qu'il nous échappe, non ? Mais c'est un phénomène mystérieux parce que Dieu exauce à la fois nos maux et nous exauce en nous transformant. Je suis convaincu qu'une bonne part des exaucements de nos prières viennent de ces maux qui sont répétés devant Dieu et qui, peu à peu, s'imprègnent en nous, nous transforment, nous creusent, nous rendent disponibles à notre propre prière. Donc oui, Dieu sauve le monde, mais encore faut-il que le monde veuille bien, par la prière, s'exposer à ce parcours de salut et à ce dessein de salut. Et la prière est par excellence, à mon avis, cette posture par laquelle je m'expose à un Dieu qui veut mon salut. Mais, vous savez, alors ça c'est mon expérience de bibliste qui me le fait dire, l'homme n'est jamais sauvé sans qu'il y mette du sien, sans que son « je » ne soit présent. Dieu n'est pas une sorte d'automate qui sauverait, qui guérirait comme ça. Mais oui, il faut que j'y mette du mien.
J'aimerais revenir sur cette notion de la posture que vous évoquez. Vous évoquez aussi la révélation des neurosciences qui ont récemment exploré l'activité du cerveau lorsqu'il est en régime de spiritualité, dites-vous. Et vous dites aussi l'individu s'isole de son espace-temps. En quoi ça consiste, ça, de s'isoler de son espace-temps ?
Alors, je me suis intéressé aux récentes découvertes des neurosciences. Et les neurosciences qui travaillent avec l'imagerie cérébrale ont réalisé un certain nombre de constats. C'est intéressant, c'est que ce sont ces constats qui sont transreligieux. Je veux dire, ils sont identiques, qu'il s'agisse de bouddhistes, de musulmans ou de chrétiens. Alors, ces constats, lesquels sont-ils ? Lorsque l'individu entre en prière, les zones pariétales de son cerveau, qui sont celles responsables de la perception spatio-temporelle, c'est-à-dire ce sont par les zones latérales de mon cerveau que je me perçois dans l'espace et dans le temps. Ces zones-là sont inhibées, c'est-à-dire que la perception de l'entourage immédiat, du contexte immédiat, sont affaiblies. Je me concentre sur moi-même et je m'isole de mon contexte immédiat. Ça, c'est le phénomène de l'entrée en méditation. Intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, à mon avis, c'est que cette même imagerie cérébrale montre que lorsque la personne entre en prière, donc pas seulement le recentrement sur soi de la méditation pleine conscience, mais lorsque la personne entre en prière, ce sont d'autres zones du cerveau qui sont activées et ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont activées lorsque j'entre en dialogue avec quelqu'un. Donc il y a une posture « je tue ». Dans la prière, nous nous adressons à Dieu et ce sont ces zones de dialogue qui sont activées. Et on peut le voir sur l'imagerie, la coloration de l'imagerie cérébrale. Et du coup, ça me conduit à un chapitre qui est important dans mon livre, c'est que autant aujourd'hui, on peut dire que la prière et la méditation reviennent à la mode, même dans l'entreprise, reviennent à la mode, mais une question qui est rarement posée, c'est qui est le Dieu que je prie? Parce que si c'est Dieu qui fait de mon discours ou de mon silence une prière, il faut savoir avec qui je suis en relation. Et j'ai longuement exploré l'identité de ce Dieu Père, de ce Dieu Père qui est celui que je prie, et c'est celui au fond qui va me permettre de composer, d'orienter ma prière. Un Dieu Père qui n'est pas le potentat un peu distrait que je devrais, par mes litanies, attirer à moi ou dont je devrais attirer l'attention. Dieu n'est pas une espèce de divinité obèse et impuissante qui me regarderait de haut. Non, c'est le Dieu Père attentif à moi, à mon existence, à mon être unique. Et c'est pourquoi je peux m'adresser à lui dans la confiance absolue qu'il veut mon bien et que si je m'y prête, encore une fois, si je m'y prête, en m'exposant à lui, ce bien va advenir. Alors, moi, effectivement, il est vraiment tellement important de bien savoir et de bien poser la question « Qui est-ce que je prie ?» Parce que toute ma prière va être orientée à cet interlocuteur.
Alors, on pourra y revenir, mais c'est vrai que Daniel Marguerat, je voudrais extraire beaucoup de citations de votre livre. Je ne vais pas m'en priver, certes, mais l'émission ne sera pas assez longue pour toutes les formuler. En tout cas, en voici une. Certains voudraient nous faire croire que la prière est le téléphone du ciel, dites-vous, que la communication est toujours établie, pourvu qu'on ait la foi. Mais non. Vous nous rappelez que les choses ne sont pas aussi simples. Prier demande d'être disponible à cette sidérante rencontre. Alors dans ces quatre phrases, dans ces quatre petites phrases, il y a déjà beaucoup d'idées. Mais la première question que j'aurais, c'est qui sont ces certains ? Certains voudraient nous faire croire. Qui mettez-vous derrière ces personnes ou ces certains ? Quelle serait aussi leur motivation pour nous inculquer que c'est simple ?
Moi, j'entends un certain nombre de discours qui sont des discours dans des propositions de parcours de spiritualité et au fond qui, où, semble-t-il, il suffirait de trouver la bonne posture corporelle pour d'emblée entrer en prière. C'est un petit peu ce que j'entends parce que, encore une fois, la prière et la méditation reviennent à la mode. La spiritualité n'est plus un tabou et c'est très très bien. Mais ce qui m'apparaît, et c'est là que se situe l'originalité de mon livre, ce qui m'apparaît c'est que moi je ne vais pas tellement insister ou sur des postures corporelles, mais plutôt faire réfléchir à celui devant qui je m'expose ou celui devant qui je suis. C'est ça que j'aimerais surtout mettre en avant. La prière, c'est un être devant Dieu. Peu importe le lieu ou la posture, c'est un être. Et il faut que je réfléchisse à qui je suis devant un Dieu que j'ai à découvrir et dont j'ai à découvrir l'identité de Père. Voilà, au fond, j'essaie de me démarquer face à ceux pour qui, ou à d'autres pour qui, la prière serait au fond une sorte de méditation que l'on atteint directement pourvu qu'on y soit bien disposé.
Alors ce Dieu Père, est-ce que vous parlez de lui quand vous parlez de sidérante rencontre ?
Oui, tout à fait. Quand je parle de sidérante rencontre, je fais allusion au fait que, comme je disais tout à l'heure, Dieu me fait le cadeau que mes mots ou mon silence deviennent prière parce qu'il les écoute. Et c'est un événement complètement sidérant. Je veux dire, un événement qui n'est pas à ma mesure, j'entends que je ne peux en aucun cas créer par mes mots, c'est Dieu qui me fait l'inouï cadeau d'une écoute et d'une présence. Et qui me demande alors à moi d'être présent devant lui et de m'exposer à lui. C'est ce que j'appelle la sidérante rencontre. Oui.
Vous dites aussi que la prière, c'est aussi une louange. Quand je rends grâce à Dieu, je reconnais que je ne suis pas l'auteur de ma vie, mais que je vis d'un don qui me précède et me déborde. La prière, c'est aussi des remerciements, c'est pas seulement une volonté d'être exaucée.
Oui. Parce que pour moi, là, j'ai repris, vous savez, ce que j'ai appris il y a très, 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 très longtemps au catéchisme, où on disait une bonne prière décline le merci, pardon et s'il te plaît. Et j'ai essayé d'approfondir ces trois slogans en commençant par le merci. Pour moi, le merci, la prière de louange, c'est ce moment où je reconnais que je vis d'un don qui me précède, que je vis devant un Dieu généreux, un Dieu donateur, un Dieu qui a désiré ma vie et qui l'accompagne. Et donc, je renonce à me considérer comme le maître tout-puissant, le maître tout-puissant de ma vie. Parce que je vis du don. J'ai notamment fait allusion à et revisité cette parabole extrêmement connue du serviteur impitoyable. Vous savez, ce serviteur, c'est la parabole de Matthieu 18, ce serviteur à qui un roi remet une énorme dette et qui lui refuse de remettre à son compagnon de service une dette tout à fait minime. Et du coup, le roi se fâche en lui disant « Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas, toi aussi, remis la dette à ton compagnon alors que moi, je te l'avais remise ?» Et je disais, au fond, nous faisons le plus souvent une lecture moralisante de cette parabole en considérant que ce serviteur dit impitoyable a manqué de charité, qu'il a manqué de générosité. C'est en faire une lecture morale. En fait, les paraboles de Jésus ne sont pas des petites leçons de morale. Jésus vise beaucoup plus loin, il vise l'être, l'erreur de ce serviteur. C'est pas d'avoir manqué de générosité, enfin si c'est tellement, mais pourquoi a-t-il manqué de générosité? C'est qu'il ne s'est pas compris lui comme un être dont toute la vie dépendait d'une incroyable et insondable générosité. La générosité du Dieu créateur, la générosité du Dieu de vie, la générosité de Dieu qui m'offre la vie chaque matin. Et c'est à partir du moment où je vis, je suis conscient de vivre de cette incroyable et inouïe générosité que je peux à mon tour donner, partager, être ouvert, être généreux. Alors c'est ça qui a manqué à ce serviteur impitoyable et la prière qui commence par la louange elle dit non seulement la gratitude au Dieu bon, au Dieu dont la providence m'accompagne et me protège, mais c'est aussi en disant cette bonté qui est à l'origine de ma vie que je suis capable à mon tour d'être charitable et miséricordieux. Donc la prière de louange conduit très très loin parce qu'elle me conduit à être celui qui partage les richesses qu'il a reçues.
Je vous propose d'entendre la prière en chanson de Leonard Cohen, « You want it darker ».
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Heinene, heinene. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But but it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Daniel Margera, oui. Merci. Après cette chanson, cette prière de Leonard Cohen, nous allons continuer à dérouler votre livre « Et la prière sauvera le monde » aux éditions Cabedita. 90 pages écrites, comme vous nous l'avez dit, comme une source qui a coulé et qu'on lit avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Vous appuyez vos propos sur de nombreuses paraboles pour lesquelles vous proposez une interprétation souvent inverse à celle qui vient spontanément ou en tout cas à celle à laquelle on a été habitué. Et vous nous dites que la prière n'est pas seulement un dialogue entre soi et Dieu, mais qu'il existe une troisième dimension, un troisième personnage. Dans cet échange.
Alors oui, le troisième personnage, je me suis attaché à cette parabole que Jésus raconte, dans laquelle un ami vient trouver un autre ami en pleine nuit et qu'il a faim. Et du coup, cet ami qui est dérangé en pleine nuit doit aller chercher auprès d'un troisième personnage le pain dont il ne dispose pas. Et j'ai dit, au fond, c'est extraordinaire que Jésus décrit la prière chrétienne comme une histoire non pas à deux personnages, mais à trois. C'est-à-dire que, et là, on trouve la dimension de la prière d'intercession, la prière universelle, la prière pour autrui, c'est qu'effectivement, quand je prie et que je demande, quand je prie pour l'autre souffrant, l'autre terrassé, l'autre isolé, l'autre désespéré, je prie parce que je suis dérangé, troublé, ému, touché par le besoin d'un autre et parce que je n'ai pas en moi de quoi répondre à sa demande, je me tourne vers le troisième personnage, Dieu. Je me tourne vers Dieu pour lui présenter cette demande. Et donc, je dirais, contre ceux qui disent, et on entend parfois, pourquoi s'épuiser dans des prières d'intercession interminables et répétitives, il vaut mieux retrousser ses manches et faire quelque chose. C'est très bien de retrousser ses manches, oui, mais je pense qu'avec les mains, on travaille aussi, et que les mains jointes, on travaille également à implorer Dieu d'intervenir là où je suis moi limité. Et c'est là, encore une fois, et je reviens à une chose que je disais auparavant, c'est là que la prière vient me transformer, parce que porter la souffrance de l'autre, porter le besoin d'autrui, porter mon inquiétude pour la paix dans le monde, devant la guerre ou devant la misère, c'est, je me positionne comme un être empathique, comme un être attentif aux besoins du monde, et je pense que la présence de cette prière en moi peu à peu me transforme et m'inspire non seulement le travail des mains jointes, mais peut-être aussi un autre travail, des possibilités de participer, de partager, d'intervenir, de s'investir. Et c'est là que la prière fait en moi son travail de transformation, de modelage au désir de Dieu.
Alors prier, c'est être croyant. Mais vous dites aussi que croire, ce n'est pas d'abord penser que Dieu existe, c'est avoir confiance en lui. Et vous commentez en disant « L'incrédulité se loge au cœur même de la foi et fait partie intégrante de la foi. Nier la morsure du doute, dites-vous, au cœur de la foi, c'est s'illusionner coupablement sur soi-même. » Alors les incroyants aussi pourraient prier.
Ce que j'ai voulu dire avant tout, c'est que le monde ne se sépare pas, ne se divise pas entre des croyants qui auraient une foi monolithique et blindée, et puis des non-croyants qui auraient un athéisme aussi fermé. Pas du tout. La foi, telle qu'elle apparaît dans le Nouveau Testament, elle est toujours un geste de confiance, mais au creux de cette confiance se loge le moment du doute. Et ce moment du doute, il peut être extrêmement léger et la confiance va être première, mais tout d'un coup, face aux difficultés de la vie, face à un drame personnel, tout d'un coup, c'est ce moment de doute qui prend plus de force et qui prend plus de poids. Je veux dire qu'il est important que nous puissions reconnaître, admettre ce doute qui cohabite avec la confiance en Dieu. C'est ce que, dans l'évangile de Marc, chapitre 9, la merveilleuse déclaration de ce père de l'enfant épileptique qui dit « Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Il confesse à la fois la confiance qu'il a dans le Christ et la prise que le mal a sur lui. Que le mal a sur lui, ça peut être tout simplement un fatalisme qui fait penser que Dieu ne changera rien à mon existence. Donc oui, je crois que la morsure du mal, elle doit être reconnue en nous, accueillie comme une face sombre, comme une face grise, mais qui fait partie de moi, sachant que ma vie est un long parcours et que cette part de doute, elle va se loger dans d'autres recoins de mon existence ou de ma pensée. Elle va migrer. Mais c'est aussi ce qui va me permettre d'accueillir le doute de l'incroyant en lui faisant reconnaître ou deviner à l'incroyant la part ou le besoin qu'il a d'une foi ou d'une confiance en Dieu. Encore une fois, dans notre dialogue avec des non-croyants, nous ne sommes pas face à un refus à 100%. Il y a souvent un désir de s'ouvrir à Dieu et il est important de pouvoir le reconnaître.
Absolument. J'invite tous nos auditeurs, croyants et incroyants, et tous ceux qui sont entre les deux, de lire cet ouvrage et « La prière sauvera le monde » de Daniel Marguerat, qui nous propose vraiment de déplacer notre regard sur cette question-là, qui déplace aussi notre lecture des évangiles. Vraiment un grand merci, Daniel Marguerat, à la fois pour cet entretien et pour ce petit livre, petit dans le nombre de pages, mais grand par le message qu'il contient. Merci, au revoir.
Merci à vous, au revoir.